France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue en douceur et en poésie. Nous sommes de plus en plus nombreux à lire des poèmes et ce tout petit secteur de l'édition a bondi de 17% en 2024. Pour parler de ce renouveau du genre poétique, je suis en compagnie de Cécile Coulon. Elle a commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Elle a publié 9 romans, bientôt 10 et 4 recueils de poésie. Si vous la cherchez, vous la trouverez peut-être dans les grandes plaines, les forêts profondes ou devant un feu de bois, car elle aime la nature sauvage. Ou peut-être la trouverez-vous en train de courir. Car Cécile Coulon, qui a publié au printemps le recueil de poèmes « Retrouver la douceur », est toujours en mouvement. Mouvement de la langue, mouvement du corps. Chez elle, le geste et la pensée se confondent et le résultat nous transporte. En deuxième partie d'émission, je serai en compagnie de l'éditeur Bastien Gallet et de la poétesse Séverine Decourt pour évoquer la nouvelle et réjouissante collection « Poésie commune ». Alors entrons en poésie et goûtons ensemble un peu de la tendresse retrouvée. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour Élise Lépine.
Vous venez de publier « Retrouver la douceur ». Est-ce que vous l'aviez perdue, la douceur ?
Je crois que je l'avais surtout laissée de côté. Je crois qu'on la perd vraiment tout à fait, mais qu'il arrive des choses dans nos vies, dans nos existences, plus ou moins prévues, où on ne sait plus faire avec, où on la range, où on l'oublie, où on la met quelque part, on la pose quelque part. Et tout le jeu de la poésie, tout ce processus d'écriture, c'est « mais où est-ce que je l'ai rangée et pourquoi j'ai laissé là si longtemps ?»
Donc c'est un devoir ou un travail de recherche d'une mémoire ou d'une sensation perdue, de choses qui se sont un peu enfouies sous les strates de l'existence.
Sous les strates de l'existence, sous les strates du quotidien, et puis sous tous les gestes, toutes les paroles, toutes les petites phrases auxquelles nous nous sommes habitués et qui font parfois si mal quand elles sont dites au mauvais moment. Et en dessous de tout ça, il faut creuser, il faut fouiller. Vous savez, il faut imaginer un enfant qui est dans sa chambre et qui jette toutes ses affaires à droite et à gauche pour essayer de trouver au milieu du tas quelque chose qui est de l'ordre du trésor. Et je pense que c'est ça, je crois que dans le fait de retrouver la douceur à travers l'écriture de poèmes, puisque c'est le cas ici, il y a cette idée de grand chambardement dans une chambre qui est à soi et qui pourtant ne nous ressemble plus vraiment.
Donc on s'est beaucoup amusé et il s'agit de retrouver l'ordre perdu finalement.
L'ordre perdu, je pense aussi la quiétude perdue et de retrouver ce qui est absolument nécessaire, fondamental, ce qui nous touchait quand on était enfant et ce qui a continué à nous toucher, mais pour des raisons qui nous appartiennent, qu'on a mis de côté. Je pense que c'est vraiment cette idée d'avoir mis de côté quelque chose qui était soit trop beau, soit trop encombrant, et qui par cette beauté, par cet encombrement, nous faisait beaucoup de mal.
Alors on parle déjà d'enfance, et avec vous, on commence très tôt à entrer en littérature. Vous avez commencé à écrire à 16 ans avec un premier roman, Le voleur de vie, puis un deuxième en 2010. Vous êtes guère plus âgé, hein, 3 ans plus tard, Méfiez-vous des enfants sages, toujours l'enfance. Et en 2012, premier grand succès, Le roi n'a pas sommeil, qui reçoit notamment le prix Mauvais genre de France Culture. Vous en avez publié 6 autres. Ce qui frappe dans cette production romanesque, c'est l'absence d'autofiction, qui est peut-être une tentation ou un genre auquel les auteurs et autrices tout jeunes pensent souvent d'écrire sa propre vie, sa propre mémoire. Vous ne le faites pas du tout, on est vraiment dans un genre fictionnel. Est-ce que, en termes de roman, c'est le secret de longévité et de réussite quand on commence très jeune, dans un monde qui, par ailleurs, n'autorise pas toujours le succès sur le long terme? On a souvent eu des exemples de déconvenues ou de chutes de jeunes romanciers, romancières. Ça ne vous est pas arrivé, Cécile Coulon, votre notoriété ne fait que croître.
Oui, alors j'aimerais bien que ça continue, hein. Voilà, je lance un appel
aux lecteurs et
lectrices. Mais ce qui s'est passé, vous avez raison de le souligner, je crois que la tentation de l'autofiction, que par ailleurs j'ai absolument embrassée en poésie, voilà, a tout de suite été écartée pour des raisons assez évidentes. Je me disais à cet âge-là, et je me le dis toujours, mais je n'ai rien à raconter sur ma vie. il ne s'est rien passé entre Clermont-Ferrand, Aurillac et Montélimar, dans ma vie, en tout cas dans la mienne, qui tienne sur 300 pages, pas du tout. Ou alors il faut avoir un style si beau, si incroyable et si nouveau qu'on peut tout raconter. Et je crois aussi que le jeu de l'imaginaire, en tout cas cet immense espace de liberté qu'est l'imagination, qui a commencé à fonctionner très très tôt chez moi, et je remercie à la fois Stephen King et mes parents d'avoir contribué à ce fonctionnement, m'a permis de me défaire de l'autofiction, et je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, évidemment, pour aller vers du texte et vers des ambiances qui se rapprochaient beaucoup plus du roman noir, qui approchaient aussi, on va dire peut-être, le polar, parfois dans les lectures qui, moi, me touchaient, le fantastique. Il n'a jamais été question, en tout cas pendant les 15 premières années de travail d'écriture, de raconter des faits de ma vie. Des émotions, absolument. Des questionnements, des angoisses, des grandes joies, absolument. Mais ces angoisses, ces questionnements et ces grandes joies, je les ai toujours mises et mis dans des fictions. Et je voudrais reprendre une expression de Marianne Lafont que j'aime beaucoup, où elle dit qu'elle fait des nuages de fumée. Et je pense que moi, j'ai allumé beaucoup, beaucoup de feux pour faire de très, très gros nuages dans lesquels je pouvais à la fois me développer et me cacher.
Et les ronces arrivent, le premier recueil de poèmes arrive en 2018, si je ne me trompe pas. C'est tard par rapport à 2006, où vous étiez sur les bancs encore du lycée à écrire un premier roman. Cette fiction qui vous tient à cœur, ces fameux nuages de fumée dans lesquels vous vous drapez et dans lesquels vous avancez, et puis vous la dissipez en 2018 quand vous arrivez aux ronces et que là vous donnez la sincérité d'éclat de vie personnelle de Cécile Coulomb.
Oui. En fait, les ronces, ça a été pour moi, une déflagration, mais une déflagration larvée et latente, dans le sens où j'écrivais des poèmes depuis très longtemps, que je ne mettais qu'en ligne, parce qu'on m'avait très vite dit que dans l'espace éditorial français de ce moment-là, de cette époque-là, personne n'en voudrait, et que si quelqu'un en voulait, je n'en vendrais pas, donc ça ne servait à rien. Et j'étais plus jeune que maintenant, et du coup, j'ai cru à ces paroles, et donc j'ai utilisé Facebook pour pouvoir faire lire de la poésie. Et pendant 8 ou 9 ans, presque 10, je n'ai publié mes poèmes qu'en ligne. J'avais évidemment des retours de lecteurs et de lectrices, mais ça ne me venait pas à l'idée que ces poèmes pouvaient exister ailleurs que dans le virtuel, que dans l'espace virtuel. Et il y a un éditeur, qui est le Castor Astral, chez qui je publie toujours mes recueils de poèmes, qui a été intéressé, qui m'a dit « Mais est-ce que vous pouvez m'envoyer une vingtaine de ces poèmes ?» Mais il y avait 10 années d'écriture, donc il a fallu faire un tri, il a fallu choisir qu'est-ce qu'on raconte de soi entre le moment où on a commencé à les publier, où on a 20 ans, et le moment où on va les publier en papier, on en a 28. Qu'est-ce qui a changé? Comment la langue a évolué aussi. Et c'est vrai que les ronces, il y a eu cet immense travail de choix qui était à la fois difficile, mais ça a été aussi pour moi devoir retourner sur 8 années d'écriture qui n'étaient pas de la fiction, qui n'étaient pas du roman, où je ne savais pas si des gens allaient lire ça dans un vrai livre. Et c'est vrai que j'étais très à la fois abasourdie et en même temps indolente lors de la sortie de ce texte.
Est-ce que, vous le disiez, vous avez commencé très tôt à lire et à écrire de la poésie. Quelles étaient vos différentes influences, Cécile Coulomb? Qui vous a inspiré?
Ah, alors, pour la poésie, pour être tout à fait honnête, ça n'a pas commencé avec des recueils de poèmes. Ça a commencé avec d'autres supports, qui étaient le cinéma. Je pense que ma première très, très grande gifle poétique, c'était Le Roi et l'Oiseau. Il se trouve que j'ai toujours fonctionné dans l'enfance, l'adolescence et maintenant, par obsession culturelle. Quand quelque chose me plaît, ou en tout cas quand je plonge dans quelque chose, ou plutôt l'inverse, qu'une œuvre plonge en moi, j'ai tendance à la regarder, l'écouter, à l'épuiser d'une certaine façon. Et très tôt, mes parents m'ont montré Le Roi et l'Oiseau, et j'ai eu une sorte d'épiphanie, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais j'ai vu ce film, je pense, 150 fois. Et j'ai appris par cœur les dialogues, et j'ai appris par cœur la musique, et j'ai regardé qui avait fait ce film, et qui avait écrit ce film, et c'est Jacques Prévert qui l'a écrit. Donc moi, je suis rentrée, ou la poésie est entrée dans ma vie, par le scénario du Roi et l'Oiseau, écrit par Jacques Prévert. Donc ensuite, j'ai lu les recueils de poèmes de Jacques Prévert, que j'ai beaucoup aimé. Comme tous les enfants de ma génération à l'école, on m'a demandé d'aller au tableau et de réciter Le Cancre de Jacques Prévert. Ensuite, mes attaches géographiques font que mes parents ont écouté en boucle pendant à peu près 30 ans Jean Ferrat. La montagne de Jean Ferrat, évidemment, on est très au courant qu'elle est belle, la montagne, mais aussi tous ces textes qui étaient écrits par Aragon. Donc encore une fois, qui a écrit ? Ah, c'est un poète. Donc ça s'est toujours fait, d'abord le cinéma, puis la musique, et ensuite, à travers, je pense que j'ai travaillé à l'école, à travers ma curiosité personnelle, j'ai commencé à comprendre ce qu'était la poésie sous forme de recueil de poèmes. Mais c'est toujours passé par des chemins de traverse, par des marges ou par des ravins culturels.
Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous posez vos premiers vers sur une feuille de papier ou un écran d'ordinateur ?
Alors, je m'en souviens très bien parce que c'était très mauvais. Et c'était comme tous les enfants, hein, quelque chose de fête des mères, quoi. Ça, il faut arrêter de faire ça, hein, parce que c'est pas fou. Hein. Mais je pense que la première fois, comme beaucoup d'enfants à l'école primaire, j'ai dû écrire un poème de fête des mères et de fête des pères. Et j'espère vraiment qu'il n'existe plus.
Moi, j'espère vraiment, et je suis sûre qu'il existe soit dans un tiroir, soit dans le cœur de vos parents. Vous m'avez parlé en préparant cette émission d'un poème que vous aimez beaucoup, c'est Speak White de Michel Lalonde. On l'écoute en faire la lecture, c'est en 1970.
Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak white. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gunn. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose, de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white. Haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreilles. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende. De Saint-Henri à Saint-Domingue, oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white. Tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter. Mais pour se vendre à perte d'âme, mais pour se vendre. Oh, speak white, big deal.
Qu'est-ce qui vous touche dans ce poème, Cécile Coulon, et dans cette vision aussi du langage ?
Vraiment, ce poème, je me souviens de la première fois où j'ai entendu et vu ce passage. C'était il y a une quinzaine d'années. On peut écouter Michel Lalonde le lire en entier. Ça dure une dizaine de minutes, hein, je crois. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus bouleversée, c'était de voir cette femme qui, en lisant son texte, son poème, était dans une émotion telle, on l'entend d'ailleurs dans sa voix, ce tremblement qui n'en finit pas de trembler, et qui pourtant emporte le texte. Et c'est un texte qui, à la fois, qui parle du langage et du pouvoir du langage et de la langue. Pour remettre ce texte dans son contexte de l'époque, il a été écrit en 68 et il s'agit speak right, le parler anglais, parler blanc, c'était on va dire les Canadiens anglo-saxons qui demandaient aux Canadiens francophones de parler leur langue, et les Canadiens anglo-saxons étaient ceux qui étaient considérés comme plus riches, plus cultivés, plus capitalistes, et en face il y a ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette idée-là de l'existence. C'est un texte sur ce que c'est que comment dire que le pouvoir social, que la hiérarchie, que l'écrasement, à la fois par la langue et le langage, par ce que disent les mots et comment on les dit. Et il est évident que, alors, aujourd'hui, on peut lire ce texte de mille façons. Et il y a eu énormément d'études pour détricoter ce qu'elle disait en 1968. Mais je crois, pour moi, ce qui est vraiment, ce qui m'émeut encore, c'est de se dire, mais tout ce qu'elle raconte là, et la manière dont elle le lit, et ce grand frémissement qu'elle a dans le cœur et dans la voix, est tout à fait compréhensible, audible, tout de suite. Il y a dans ce poème et dans tous les autres poèmes qu'elle a écrits, parce que celui-ci est le plus connu, il est étudié à l'école, au Québec, mais je crois que son poème préféré d'elle-même s'appelle « Envoi de fleurs », c'est un très beau poème. Et je crois que la poésie, c'est ça, c'est d'être capable, en quelques mots, en moins de quelques minutes, de faire comprendre à celui ou celle qui nous écoute que nous sommes dans une émotion intense, que cette émotion intense est là en nous depuis des années, et que la seule manière de faire entendre ce qui est invisible, c'est le poème, c'est la poésie, mais encore faut-il mettre les bons mots aux bons endroits. Et je crois qu'elle y arrive incroyablement bien dans ce texte-là, et j'adore ça parce que je suis infiniment reconnaissante à cette autrice, infiniment reconnaissante à la personne qui l'a filmée lors de cette nuit de la poésie en 1970, d'avoir montré ce que c'est que la poésie à la fois dans le texte, dans la langue, mais dans le corps aussi. Vraiment, j'invite les gens qui nous écoutent à aller regarder sur les archives Michel Lalonde lire ce texte, parce que c'est une performance abominablement merveilleuse.
C'est ça qui fait un bon poème, abominablement merveilleux. C'est le moment où se rencontrent à la fois l'émotion, à la fois le message et le langage et l'incarnation aussi du poème.
Tout à fait. Je crois que le poème, c'est un alignement de vastes émotions qui nous dépassent dans le quotidien. Et tout à coup, il suffit d'une page blanche pour que cet alignement nous paraisse terrible, mais aussi merveilleux dans le sens où on ne pensait pas que ça pouvait exister à cet endroit-là. Je crois qu'il y a une densité de la langue et de la sensation qui font qu'on est toujours mis KO par un poème qu'on comprend.
Il y a un alignement aussi, une quête d'alignement aussi chez vous. Il y a beaucoup dans votre recueil, Retrouver la douceur, il y a beaucoup l'expression « je cherche, vous cherchez beaucoup ». Et il y a une forme de division ou de morcellement, notamment dans, par exemple, « On n'a pas le choix ». C'est un poème qui raconte cette confrontation entre deux univers. D'un côté, celui d'où vous venez, la Corrèze, Clermont-Ferrand, où vous habitez encore à mi-temps, entre Paris et Clermont. Et puis, ce monde des, entre guillemets, vraiment des gens simples de la campagne, et puis le monde, l'intelligentsia parisienne, le monde de l'édition, etc. Et vous racontez comment finalement vous arrivez ou vous cherchez à faire se rejoindre ces deux univers qui parfois ont l'air complètement antithétiques.
Je crois que c'est d'ailleurs une question très politique de faire se rejoindre des univers qui, visiblement, ont du mal à se parler, même à se regarder ou à simplement s'écouter. Et peut-être que la poésie est éminemment politique parce qu'il s'agit de tendre un élastique toujours fragile entre ces deux lieux et de cheminer dessus et de faire en sorte que tout le monde puisse marcher sur cet élastique. Et c'est toujours un exercice périlleux, parce qu'on est funambule quand on écrit de la poésie, quand on essaye de raconter en étant juste, sauf que la justesse, ça existe le temps de la lecture et potentiellement le temps de l'écriture, mais c'est très difficile d'être dans cette justesse-là pendant des années ou pendant quelques mois. Et c'est vrai que quand ce poème « On n'a pas le choix », je l'ai écrit après avoir payé des courses dans un supermarché, un petit Intermarché en Corrèze, et j'étais je pense que il a fallu écrire ça parce que tout d'un coup c'est devenu impossible de faire autrement et de dire je suis dans une scène, je suis en train de vivre une scène que je ne peux pas raconter parce que si je la raconte à voix haute, je serai le cliché ambulant de la personne qui ne sait plus où elle crèche, comme on dit chez moi. Et la poésie permet peut-être de créer des refuges aussi et de dire que les contradictions sont possibles, les milieux peuvent se parler, la géographie a son importance aussi parce que ça on l'oublie un petit peu et que personne n'est oublié.
On va vous écouter lire l'un des poèmes de votre dernier recueil. Il s'intitule « Ce qu'il y a derrière le cœur ».
Samedi, j'ai lu quelques poèmes dans un hangar où la cheminée avait été allumée. À la fin de la soirée, mon éditeur m'a parlé des mots qui sont des pièges. Le cœur en est un. L'âme vient deuxième. Soudain, il m'a dit, l'important, quand on écrit le mot « cœur », c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Cette phrase m'a grignoté la tête pendant des heures. Je ne sais pas encore à quoi ressemble la bonne réponse, mais j'imagine que je l'ai commencé avec ce premier titre, « Les ronces ». Pour moi, derrière, il y a 30 ans de grands mystères à propos de l'amour qui vient quand il veut et qui n'obéit qu'aux flammes de son propre feu. Il y a bien sûr ces hivers interminables où tout est gelé en soi. On confond le passé et l'innocence. On se persuade qu'enfin, à l'avenir, on saura vivre au chaud dans les plis du silence. Derrière le cœur, j'entasse des colères vivaces et des joies débordantes. Je cache des royaumes de fleurs séchées et des empires d'étoiles. Je protège des histoires que j'ai peur d'abîmer et je me fiche qu'elles soient ou non des histoires vraies. J'imagine plus que je ne réfléchis. C'est là ma façon d'être au monde, de ranger derrière un mot le dictionnaire entier, de construire des maisons souterraines et des cabanes perchées, de faire d'un berceau une tombe et d'un vieillard un nouveau-né. Ce qu'il y a caché tout près du cœur, c'est une peine d'un autre temps, une mélancolie qui vient d'ailleurs, une émotion coincée entre l'ennui et la stupeur. Alors je fais des barrages d'amour infini, de moments lumineux. Je dévie des vagues immenses sur des rochers de nuit. Le soir, quand la lumière est rouge, j'appelle en moi la force des légendes, des contes et des mirages. J'accroche à mes oreilles des boucles de cheveux blonds, plus secs que le foin, plus blancs qu'un blanc matin. Et je chuchote pour qui entend. Derrière le cœur, il y a ce qui fut brisé et gardé là pour ne point perdre les morceaux de la beauté.
Merci pour cette magnifique lecture, Cécile Coulon, et ces barrages d'amour infini que vous dressez contre quoi? Parce qu'il y a vraiment cette inquiétude du temps qui passe, cette curiosité de voir l'âge arriver aussi, plus que du chagrin, j'ai l'impression.
Je crois qu'il y a une angoisse du temps qui passe, mais qu'il y a surtout une angoisse de ce qu'il y a dans ce temps qui passe et de comment je choisis de passer, moi, sur ce temps qui passe, de cheminer sur ce temps-là. Je crois qu'il y a le sentiment, la peur d'être inutile, la peur d'être à côté de la plaque, la peur de ne pas savoir où est ma place et est-ce qu'il faut apprendre à s'en faire une, à en construire une. Je pense qu'il y a l'immense question de ce qu'est la part de fiction que nous avons chacun et chacune en nous et de comment on remplit cette part de fiction, avec quelles images, avec quelles histoires, avec quelles idées, et tout ça, je ne peux pas en parler pendant des heures parce que ce serait d'une part extrêmement angoissant et déplaisant pour les gens qui m'écoutent, mais je crois que la poésie vient répondre aux questions qu'on ne peut pas poser à voix haute.
Il y a une façon aussi pour vous d'aller vers cette poésie, et vers ces questions informulables, c'est par le corps et par le paysage. C'est-à-dire qu'on est, déjà vous courez beaucoup, oui. Vous êtes en mouvement, vous aimez pousser votre corps au-delà de ses limites, et puis vous cherchez beaucoup la nature. On peut voir, si on vous suit sur les réseaux sociaux, des photographies, des textes, vous êtes dans un environnement. Est-ce que vous pensez les mots à travers l'expérience du corps, Cécile Coulon?
Alors je crois que pour donner une image assez comment dire précise, pour moi mon corps c'est un peu comme une essoreuse à salade, dans le sens où j'ai tous mes mots en moi et je me secoue. Et ce qui reste à la fin, c'est ce qui est essentiel. Et quand je dis je me secoue, c'est aller courir, aller marcher, beaucoup courir. Hein, c'est ma manière d'écrire. Je pense que j'écris autant avec mes mains qu'avec mes pieds parce que j'ai besoin d'éprouver le langage et les idées à travers le corps. J'ai besoin que ça me traverse de haut en bas. J'ai besoin d'être dans un mouvement, dans une foulée, dans une respiration aussi qui me donne un rythme. Et c'est dans ce rythme que je peux découvrir quels mots utiliser, que je peux comprendre quelles phrases fonctionnent et quelles phrases ne fonctionnent pas. Je pense que j'ai besoin de ce corps qui court ou qui marche, en tout cas de ce corps en mouvement, pour donner aux mots un sens vif et vital.
Et vous invitez d'ailleurs vos lecteurs et lectrices à courir avec vous.
Oui, depuis quelques temps maintenant, depuis un an ou deux, quand je fais des rencontres en librairie ou pendant des festivals, on met en place des joggings littéraires où le matin, au lieu de rester dans sa chambre ou autre, eh bien, qui veut peut venir courir pendant 5 ou 10 kilomètres, histoire de bien commencer la journée. Et pour ma plus grande surprise et stupeur, il y a toujours du monde. Même à 8h du matin, en semaine, dans n'importe quelle ville, il y a toujours des gens pour venir courir.
Qu'est-ce qui pousse les gens vers... Alors la course, certes, moi ça m'interroge beaucoup, car je ne mets jamais de basket pour aller courir, mais vers ce mouvement du cerveau, vers le corps, vers le cœur, cette poésie et la course. Qu'est-ce qui les amène là, ces gens?
Alors je pense que... Alors, je parle vraiment de la course à pied. Je pense que la course à pied procure, d'un point de vue physique, mental, émotionnel, une grande quiétude, une grande force d'esprit, une clarté aussi intellectuelle. Et je crois que toute personne qui court un peu le matin, pas forcément tous les jours, mais sait que toute la journée sera différente s'il y a eu 5 ou 10 kilomètres le matin, parce que le cerveau ne baigne plus dans les mêmes angoisses. Et je pense très sincèrement que c'est ça ce que les gens recherchent, c'est de se défaire, de se dédraper de ces angoisses.
Et la poésie les aide aussi, j'imagine.
Ben, j'espère.
Il nous reste très peu de temps pour conclure. On va écouter un chanteur qui me rend vraiment nostalgique. Et je pense que vous aussi, Cécile Coulon, c'est Henri Tachant qui a chanté La Tendresse en 1979. Et je crois que vous l'écoutiez à la maison quand vous étiez petite.
Mes parents écoutaient Henri Tachant quand j'étais petite. Et Henri Tachant, il est décédé maintenant. Il est mort le même jour que Jane Birkin.
En 2023.
On n'en a pas beaucoup parlé, mais nous l'avons, vous et moi, beaucoup aimé.
On l'a beaucoup aimé et on l'écoute, le grand Henri Tachant, La Tendresse.
C'est un air de flûte la nuit qui s'enroule au cou des brebis, la tendresse. Un vieux bouquin parcheminé qu'on lit devant la cheminée, la tendresse. C'est la colombe encore vaincue qui fait pourtant le pied de grue, la tendresse. Ce bel oiseau blanc déployé, quand le désir est empaillé, la tendresse. Ces quatre notes d'un piano qui bêtement font le cœur gros, la tendresse. C'est cette brute qui soudain éclate en sanglots dans ses mains, la tendresse. C'est sur le quai de cette gare les migrants qui cherchent un regard de tendresse. Derrière les murs d'un lupanar, c'est ce petit ticket d'espoir, la tendresse.
Qu'est-ce qui vous touche, Cécile Coulon, là, chez Henri Tachant?
Mais parce que je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les chansons de Jean Ferrat. Quand on écoute ce texte-là qu'on vient d'entendre, c'est tout de même incroyable de se dire que ça paraît si facile de dire des choses aussi compliquées avec quelques mots. Et pourtant, c'est un travail du langage incroyable. Ce passage sur cette brute épaisse qui explose en sanglots dans ses mains, je pense que cette image, tout le monde la comprend, tout le monde la voit, tout le monde l'entend, tout le monde l'a déjà croisée. Et je trouve que c'est cet alignement des autres avec soi-même dans une émotion très simple et difficile.
Et c'est aussi le moment où se rencontrent l'émotion et le spectacle de la nature, puisqu'il parle de la tendresse qui s'enroule au cou des brebis. Jean Ferrat, quand il parle de la montagne, il parle quand même de la beauté si accessible, si simple, de ces sommets qui regardent, qui est en train de perdre d'ailleurs. C'est là aussi finalement l'un des leviers très simples de la poésie, c'est savoir traduire ce qu'on voit qui paraît si simple.
Je crois que c'est savoir reconnaître ce qu'on voit, savoir traduire aussi, savoir redonner de la couleur là où on pense qu'il n'y en a plus, et peut-être même encore plus simplement ne pas oublier que ça existe.
Et savoir en frémir encore. C'est si
toujours.
Long, parce que vous parliez de ces émotions qui traversent à la lecture. Quand on écoute une poésie, quand on la lit, on a senti la vôtre. En un mot, c'est vraiment ne pas la perdre et la chérir toujours.
La chérir. Et si on la met de côté, ne jamais oublier d'aller la chercher.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cécile Coulon. Et on sera très heureux d'aller chercher cette émotion en lisant Retrouver la douceur et d'aller retrouver cette douceur perdue. On se retrouve en seconde partie d'émission autour de la collection Poésie commune. Mmh.
Et me voici toujours pour parler poésie en ce lundi dans les Midis de Culture et pour évoquer une toute nouvelle collection magnifique, petits livres colorés, cartonnés, de petit format. Elle s'appelle Poésie commune, elle appartient aux éditions MF1. Et pour en parler, je suis en compagnie de son fondateur et directeur Bastien Gallet et de l'une de ses poétesses publiées par Poésie commune, donc Séverine Decour. Bonjour Séverine Decour.
Bonjour.
Bonjour Bastien Gallet.
Bonjour.
Pour commencer, je me tourne vers vous, Bastien Gallet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette collection de poésie? Je rappelle que vous avez publié en avril 2025 quatre recueils qui inaugurent la collection Poudreuse de Séverine Jocourt, donc qui est avec nous, Sissi de Florence Jouve, Veulent les roses de Gabriel Schaff et Les branches des autres de Camille Sova. Et l'an prochain, on en parlera peut-être en 2025, vous allez publier quatre autres recueils de poésie. Est-ce que vous pouvez nous parler des débuts de cette aventure de poésie commune?
Eh bien, la collection est née en fait d'une conversation, une série de conversations avec Laure Gauthier, qui est une écrivaine, poétesse et amie. On avait reçu aux éditions un grand nombre de manuscrits de poésie, ce qui était un peu nouveau pour nous, puisqu'on ne publie pas naturellement de la poésie, on publie des livres qui s'en rapprochent, mais qui ne sont pas édictés poésie. Et certains étaient enthousiasmants. Voilà. Et Laure, de son côté, avait constaté un renouveau, on pourrait dire, de l'écriture poétique, au sens d'une pluralisation, vous voyez, des formes, des écritures, des paroles, des dispositifs, mais aussi une invention d'une nouvelle manière de se brancher sur le contemporain. Vous voyez. Voilà, l'idée de collection est née assez vite. Et autour d'une volonté d'horizontalité. Donc on a réuni un comité de 8 membres, tous des auteurs et des autrices, et tout se fait, se lit, se construit et se décide au sein du comité, vraiment. Et par ailleurs, donc on a tout de suite voulu, autour de ce nom Poésie commune qui est arrivé très vite, on a voulu publier 4 livres chaque printemps en même temps, simultanément. En quelque sorte. Hein. Et d'ailleurs, ils sont reliés graphiquement un peu secrètement. Vous voyez, si on les accole, on voit que les lettres se raccordent. Il faut trouver le bon ordre. Et d'ailleurs, je rends hommage au travail des graphistes, qui est vraiment vraiment étonnant, Alice Jauneau et David Valence. Et alors, on émettait le vœu, si vous voulez, que les lecteurs et lectrices lisent ces livres parallèlement, pas en même temps, mais parallèlement, parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Mais qu'ils dessinent, depuis leurs différences, une sorte de territoire commun. Et qui a un rapport avec cette manière de se relier au contemporain. Voyez. Si on pense le contemporain comme un ensemble de problèmes voyez, qui viennent entraver nos vies, qui viennent offusquer un peu nos possibles, notre avenir, et dont on est affecté même sans le vouloir. Voilà. Et donc, voilà, les quatre livres abordent ces questions, donc pas comme moi je le problématise, hein, mais avec le dispositif textuel original de chacune des autrices. Donc ça peut être la géo-ingénierie, ça peut être voyez, le surtourisme, la violence ou les injonctions du genre personnel, ou bien chez Séverine Decour dans Poudreuse, l'administration néolibérale des esprits et des corps.
Et des femmes qui écrivent.
Alors, c'est un peu un hasard, en fait. Il se trouve que les meilleurs textes étaient écrits par des femmes.
Ah, alors, quel heureux hasard.
Parmi ceux qu'on avait reçus.
Et qu'est-ce qui vous a secoué dans la forme de ces textes? Vous parliez de quelque chose de novateur.
Ben, ce sont des dispositifs très hétérogènes, vous voyez, qui vont user et emprunter, détourner des genres, des formes littéraires et autres, très différentes. Ça va du journal intime au guide touristique, à la chanson, au conte futuriste, au film d'action, au film de kung-fu, vous voyez. Et donc chaque texte le fait singulièrement, mais très original, hein, comme Camille Sova, par exemple, qui va prélever des phrases et des mots dans les livres de développement personnel, dans les magazines féminins, pour produire une écriture singulière et originale, dans une sorte d'écriture intime, mais dont tous les mots sont empruntés à une sorte d'idéologie du développement de soi qui vient interdire, en vérité, la singularité d'émerger. Donc, vous voyez, il y a ce jeu-là, par exemple. Et l'idée à chaque fois, c'est de se réemparer, de se réapproprier des possibles qui auraient plus ou moins été contenus ou effacés. Donc, par exemple, une lutte souhaitable, vous voyez, le souhait d'une lutte dans Sissi, hein, qui parle voilà, de la dévastation d'une région par des multinationales qui veulent ensemencer les nuages, vous voyez. Ou ça peut être s'emparer de la langue des autres, précisément, vous voyez, pour la faire sienne, pour la rendre commune à nouveau. Et dans Völlero, ça va être réinventer un territoire habitable contre l'aménagement auquel le surtourisme nous condamne. Vous voyez. Donc on a des choses concrètes comme ça.
Et je me tourne vers vous, Séverine Decourt. Vous êtes l'une des voix de cette nouvelle collection Poésie commune avec votre recueil Poudreuse que j'ai dans les mains, qui est couverture vert pomme. C'est un format, comme je le disais, petit, qu'on adore. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de format parce qu'on le glisse dans sa poche, dans son sac, et on peut plonger dans les mots. Dans vos textes, vous avez un diplôme de psychologue clinicienne. Vous êtes traductrice aussi de l'islandais. Vous avez beaucoup publié de poésie, majoritairement aux éditions La Lettre Volée et Lanskin, et vous êtes à la frontière des genres, vous êtes aussi du côté, on est dans un univers très pop, du côté de la performance et de la poésie. Qu'est-ce qui vous a amené à cette écriture, Séverine Decourt, cette écriture poétique?
Je ne sais pas si quelque chose m'y a amené, mais je pense que j'ai toujours eu, dans mon rapport aux mots, la volonté d'explorer totalement librement le territoire de la langue. Et je crois que je n'ai pas choisi vraiment d'écrire de la poésie, mais que j'avais besoin d'inventer ma propre langue et, dans un second temps, de l'incarner. Donc, c'est le genre poétique qui s'est imposé dans mon travail. Et le temps de l'incarnation, il s'est imposé aussi parce que j'ai toujours eu le souci ou le goût du moment de la rencontre et que j'ai l'impression qu'un livre s'achève quand je peux finalement lui donner corps, lui donner voix sur scène. Donc, c'est des allers-retours que je ne cesse de faire.
On va vous entendre incarner ce texte en lisant un extrait de Poudreuse.
Des gens, ils en ont marre que le monde entier dorme quand l'avalanche s'acharne à tout recouvrir. Alors ils tentent une sieste pour se retenir de vouloir déblayer. Mais ils n'arrivent pas à dormir, les pauvres, ils font semblant, tandis que sous leur peau, ça brûle. Et leurs yeux, même fermés, voient les contorsions, les convulsions du monde, ne voient plus que ça. La brûlure est immense. Aujourd'hui est oublié depuis déjà hier et le présent sous hormones essaye de prendre son temps pour sa transition, pour sa sécession nécessaire, pour léguer un terrain en libre service ouvert H24 à la pagaille, ouvert à la neige qui tombe avec son impitoyable vue d'ensemble. Ils ont des petits morceaux de neige dans les mains, morceaux de vie, morceaux de mort, à mi-chemin. Ça leur coule sur les doigts. On entend dire que la neige n'a pas de goût. On entend dire n'importe quoi. Des gens ne voient pas le temps passer. C'est parce que le temps ne passe pas. Demande à la neige, elle confirmera. Elle a ça en commun avec l'inconscient, la neige. Elle ne voit pas le temps passer. Elle a l'âge de la mémoire. Tiens, regarde. Par la fenêtre, les flocons qui défilent. C'est beau. Je pourrais essayer d'en faire la chronique. Une chronique imparfaite, à l'impératif absolu, hors mode, demandant juste au temps de l'écrire. Tu as le temps, encore toi, le temps de vivre, le temps de t'arrêter sur le temps, de le laisser prendre toute la place du moment. Tu ne comprends pas la question ? À force de faire ce que les autres pensent, tu ne sais plus ce que tu sais. Il y a trop de stimulations, de notifications, d'informations, de mesures, de données précipitées. Tu sens un flux imprévisible, sans un répit, pas même celui de l'habitude, les choses arrivées. Tu es de moins en moins ébranlé. Trop, c'est trop. Tu y perds ta lucidité. Tu écris à l'ami, puis tu lui écris un texto qui lui dit que tu lui as écrit, parce que tant d'espace, tant de lieux où se trouver à la fois avec soi et les autres, tous ensemble, demandeurs de présence. Quelle pagaille dans l'orchestre! Tu es bien placé parmi les instruments disposés entre eux par le chef sur le plan le plus favorable pour lui. 1, 2, 3, ça va commencer. symphonie du déluge dans la fosse.
Merci beaucoup Séverine Decourt pour cette lecture magnifique. Bravo, et c'est un recueil donc poudreuse comme la neige, hein, plein de métaphores, et notamment en premier lieu celle donc de la neige, morceau de vie, morceau de mort, on vous a entendu le dire, avec ces flocons qui tombent, qui sont d'ailleurs présents dans les pages, on peut voir des petits flocons au gré de la lecture dans le texte. Qu'est-ce que cette métaphore de la neige nous dit de votre regard sur la modernité, Séverine Decourt?
Alors, peut-être il faut que j'explique juste que je n'ai pas choisi la neige comme métaphore. C'était pas la base du texte. La base du texte, c'était un travail de psychologue clinicienne que j'ai fait auprès de patients addicts à la cocaïne. Et que les usagers de la cocaïne appellent la cocaïne la neige. Et que j'essayais de rendre sensible la parole de ces personnes que je rencontrais dans un texte. Et qu'au fil du temps, plutôt que de décrire des comportements dysfonctionnels en essayant de comprendre finalement ce qu'ils cherchaient en consommant de la cocaïne, et parce que j'étais comme beaucoup surprise de l'augmentation de la consommation des psychostimulants, j'essayais de voir à quoi ça répondait en fait dans la société. Je me suis laissée prendre par ce texte et par leurs paroles. Et ce que j'ai vu apparaître, c'était plus un paysage social, finalement. Et la neige, qui était la drogue, est devenue comme une sorte de figure de l'ensevelissement des gens et de leur souffrance ou de leur dislocation face aux injonctions assez paradoxales qui leur tombent dessus. Tous les jours. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, aller vite, mais aller bien. Faire vite, mais faire bien. Être soi-même et en même temps dépendre constamment de l'approbation des autres, hein, avec les réseaux et tout ça. Enfin, c'est-à-dire, toutes ces choses à quoi on doit s'ajuster et à quoi peut aider notamment la drogue, voilà, finissait par apparaître comme dans un tableau, et je voyais un monde enneigé, un monde où la neige n'était pas donc une entité lyrique, c'était certes une métaphore, mais ça venait exprimer ce qui dans le système en fait néolibéral rend tout opaque comme peut le rendre la neige, c'est-à-dire au départ c'est très alléchant comme la drogue, et finalement ça recouvre tout, c'est aussi paralysant. Voilà, ces paradoxes m'intéressaient et je trouve que la neige, finalement, finissait par les incarner aussi.
Vous utilisez le mot poélytique pour définir votre poésie, Séverine Decourt, en un mot très, très brièvement. Vous parlez d'une porte ouverte sur l'inconscient, c'est ça la poésie pour vous?
En tout cas, c'est une façon d'habiter la langue qui peut être active l'inconscient du lecteur ou de l'auditeur de poésie. Et qui peut à nouveau redonner une force à des mots qui l'ont perdu. D'autant que dans Poudreuse et peut-être dans mes autres livres, j'essaye vraiment de réinjecter du sens dans chaque mot. Enfin, ça, c'est aussi c'est politique aussi. Évidemment, c'est un travail artistique, mais c'est un travail poétique puisque la langue est vraiment mise à mal énormément.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Séverine Decourt, Bastien Gallet, les éditions Poésie Commune. Et on se quitte en écoutant Björk et son tube Bachelorette.